Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré. Et en parlant de préféré, je pense bien que cet épisode est aussi mon préféré parce qu'on s'est vraiment livré personnellement et on a appris plein de trucs sur nous-mêmes. Contrairement à d'habitude, ça n'est pas seulement Lucas et moi. On a accueilli un célèbre créateur qui cumule sur YouTube, TikTok et Instagram pas loin d'un million d'abonnés. Il s'appelle Dali Dutilleul, c'est l'expert des hacks psychologiques,
trois psychologiques de pure folie,
et du dev perso que tu as forcément déjà vu passer dans ton feed TikTok, Instagram ou YouTube. On vous met les liens vers ses réseaux sociaux en description et surtout n'hésitez pas à vous abonner, son travail est top et on kiffe vraiment sa démarche de création. Pour la petite histoire, Dali m'a contacté pendant l'été parce qu'il kiffait bien mes vidéos. Au début, j'avoue, je me suis dit « qu'est-ce que ce mec avec autant d'abonnés vient faire dans mes DM ?» C'est bien la preuve que pour lui, la création passe avant tout. En fait, il a déménagé récemment dans le sud de la France et il cherchait à rencontrer d'autres créateurs. Et comme avec Lucas, ça faisait déjà quelques mois qu'on discutait de faire ce qu'on appelle des retraites créatives, c'est-à-dire passer quelques jours loin de chez nous pour se dédier à la création, j'ai sauté sur l'occasion et on a débarqué chez Dali pour quelques jours. Pendant ce podcast, on a été ravivés des souvenirs d'enfance, on s'est tous les trois particulièrement livrés sur ce qui est important pour nous dans la vie, et on s'est bien amusés. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, et je vous rappelle simplement l'importance de nous mettre 5 magnifiques étoiles sur votre appli de podcast pour nous permettre de grandir et continuer à avoir des invités de qualité comme Dali. Bonne écoute!
Oh mec, j'ai l'impression que t'as tué un moustique devant moi, quoi.
Même pas.
Pourtant, il y a des moustiques tigres à Montpellier.
Il y en avait pas trop cette nuit, en vrai.
Non, ça va. C'est beau aujourd'hui, les gars.
Ouais, mais apparemment, à Montpellier, il fait tout le temps beau, donc...
Ouais.
Je sais pas si c'est Dali qui me disait ça.
Dali, d'ailleurs, les gars, vous êtes pas sortis encore aujourd'hui?
Non, pourquoi?
Bah, vos rythmes circadiens, vous les régulez comment? C'est entre 2 et 10 minutes. Là, t'envoies un message, faut que ta rétine,
ouais,
tu vois,
elle capte. J'ai eu la lumière bleue de mon portable.
Ouais, non, c'est pas assez puissant.
Coup,
pas assez puissant, lumière artificielle, pas assez puissant. Et le pire, même pas à travers une fenêtre, regarder le soleil, pas, enfin, même juste le ciel, pas du tout assez puissant, tu vois.
Ouais.
Faut vraiment que tu t'exposes, mais vraiment. Est-ce que ça va vraiment?
T'as écouté les podcasts d'Andrew Huberman?
Non, c'est juste que bah, là, mes cours de naturopathie, c'est sur ça.
Okay, okay.
Les rythmes circadiens.
On parle des luxes et tout, genre.
Ouais, okay, ouf. Okay. Vous, sinon, les gars, c'est quoi votre rapport à la santé?
À la santé en général ou à notre santé?
À votre santé. Ah, mais quoique, les deux peuvent être intéressants, tu vois.
En fait, j'essaie toujours de réfléchir en termes d'équilibre par rapport à ce que quelque chose peut m'apporter en termes de santé, mais aussi, je vais le mettre en perspective par rapport à tout un objectif de vivre une bonne vie et une vie pleine, tu vois. Une vie équilibrée. C'est toi qui me disais ça et je te rejoins totalement. En gros, si tu vas manger un truc dehors qui, entre guillemets, rentre pas dans ta diète, ok, ça rentre pas dans ta diète, ok, c'est peut-être des calories en trop, on va dire, mais c'est des relations sociales, c'est un moment que tu passes, c'est des rires avec des gens, c'est un beau lieu, tu vois. Donc en vrai, j'essaie toujours de suivre les gros piliers de la santé, tu vois, eat, move, sleep, tu vois. J'ai toujours été assez sportif, je fais attention à bien m'alimenter la plupart du temps. Et un bon sommeil, je pense que c'est la base, tu vois. Je pense que la santé, c'est très complexifié, tu vois, dernièrement. À des raisons marketing, tu vois.
Ouais.
Faut vendre des trucs, faut toujours inventer le nouveau concept, le nouveau machin, la nouvelle révolution. Mais je pense que c'est pas si compliqué si on se penche un peu dessus, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai vacillé entre les extrêmes. Et en fait, ça m'a permis au final de trouver un équilibre en tirant toutes les leçons de ces extrêmes-là, tu vois. En me disant que je pouvais lâcher du lest sur certains trucs, par exemple. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est pas un rapport dogmatique à la santé que j'ai.
C'est intéressant, en vrai, comme approche. Moi, je te rejoins dans le fait où je suis aussi parti dans pas mal d'extrêmes différents, tu vois, pour te rendre compte qu'au final, c'est juste pas très agréable. Et mine de rien, si t'as cette approche pour avoir une meilleure santé, mais qu'au final, mentalement, toi, ça te convient pas, bah, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
Et que c'est pas très sain aussi. Je sais que les gens qui prônent la diète à tout prix, tu vois, par exemple, ils disent qu'il ne faut pas céder à la pression sociale, mais je ne pense pas qu'il faille le voir forcément comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut juste se dire qu'il y a des moments dans la semaine où, ouais, c'est bien d'avoir une discipline, c'est bien de ne pas céder à la pression sociale, mais il y a d'autres moments où, en gros, enfin, c'est cool de lâcher prise, tu vois.
En fait, je pense que ce qui est important dans ça, avec le côté pression sociale, c'est le choix, tu vois. Et c'est en fait ce que souvent, ce qu'on sous-entend par pression sociale, c'est que t'acceptes quelque chose, mais dans le fond, tu le subis un petit peu. Parce que, tu vois, tu l'as pas vraiment décidé. Alors que si t'es en mode, bah, let's go, là, je suis avec des amis, on va manger une pizza, bah, j'en ai envie et je le choisis, c'est parti, tu vois.
Ouais,
je suis pas en mode,
ça.
Ah, j'aimerais manger une salade, mais je suis avec des potes, donc vas-y, tu vois.
Ouais, c'est exactement ça.
Mais il y a quand même un côté un peu mindset où. tu dois accepter, tu vois, des fois de choisir de faire ce truc.
Moi, c'est ça que j'aime bien dire dans le cadre de la nutrition. Au début, je me forçais un peu comme tout le monde. Tu vois, c'est dur quand t'as été programmé pour boire du jus d'orange ultra sucré, des céréales le matin et des conneries comme ça. C'est dur de reprendre un truc normal quand t'arrives à 15-16 ans et que tu découvres la nutrition. Au début, je devais un peu me forcer. Mais à la fin, ça faisait tellement partie de mon identité qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Genre, si j'arrivais dans un resto, bah, je prenais une option un peu plus légère pour moi, tu vois, mais il n'y avait pas de « Oh, ça me saoule, j'aimerais bien prendre le burger. » Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis arrivé à un point où si j'ai envie de prendre le burger, bah, je m'en bats les couilles, je le prends. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, pour l'anecdote, hier soir, on est sorti d'un resto, moi, je voulais me taper une glace, vous n'en avez pas mangé. Ouais. J'étais pas en mode « Ouais, pression sociale, ils vont me juger et tout. » Je m'en fous, tu vois. Genre, sur le moment, j'avais envie et ça m'a fait plaisir et je regrette pas, tu vois. Alors que, ouais, je pense que voir la pression sociale en mode on va me juger et donc je dois le faire, bah, ça part de raisons extrinsèques, tu vois, pour faire quelque chose. Mmh. Et sur le long terme, tu vois, ça peut pas.
Et voire même, tu peux tomber dans l'extrême inverse. Je pense que le souci que tu peux avoir quand tu commences à t'intéresser à ta santé, à tester les extrêmes, etc., c'est que tu peux vite tomber dans l'espèce de tout ou rien et du coup potentiellement même t'isoler un peu sans t'en rendre compte, mais en te disant « Bon bah resto, en fait, ça fait pas partie de ce que je peux m'autoriser, donc j'y vais pas du tout », plutôt que de dire de manière plus saine comme tu fais, Lucas, « Bah en fait, je peux y aller et prendre un truc light, tu vois. » Même sans te dire « Je me rattraperai demain » ou je sais pas quoi, mais le fait de le faire, déjà, en plus, ça te permet de tenir plus longtemps ta diète, tu vois, et de moins le voir comme une contrainte, genre comme un cadre... Restrictif.
Ça me fait rire cette phrase de « je me rattraperai demain ». En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se rattrape jamais demain. Genre, c'est pas grave, en fait. Je pense que maintenant, c'est quand même assez bien ancré, grâce justement au travail fait par les youtubeurs fitness, tu vois, musculation. C'est qu'il faut que les gens comprennent que le régime, c'est pas à intégrer dans un bon lifestyle. Les gens font pas un régime. Les gens qui mangent bien, ils font pas un régime, c'est juste un lifestyle. Tu manges bien.
C'est comme le sommeil, en vrai.
Bah ouais, c'est ça. Genre, c'est pas genre je dors 7 heures et demain je vais dormir 3 heures et du coup je vais redormir 10 heures après pour me rattraper.
Ouais.
Mais du coup, la bouffe, c'est pareil. Genre, t'as mal mangé, bah, c'est pas grave. Ouais, reprends sur des bases normales.
Ouais, c'est ça.
Mais genre, te mets pas en déficit calorique de 1500 calories.
Pour compenser.
Ouais, ça sert à rien. En fait, les gens qui pensent comme ça, je pense, c'est qu'ils voient leur régime, encore une fois, je déteste ce terme, mais je fais exprès de l'employer, comme un truc fini dans le temps. En gros, mon régime va durer genre, par exemple, 2 mois. Là, je viens de rater un jour sur les 2 mois. Faut que je me rattrape parce que j'ai une échéance. Mais moi, j'ai aucune échéance.
Bah, l'échéance, c'est la fin de ta vie.
Moi, l'échéance, c'est ma mort. Et ma mort, j'espère, en mangeant bien, la repousser le plus, tu vois, le plus tard possible, tu vois.
Ouais.
Donc, en gros, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de rattrapage ou je sais pas quoi, tu vois.
Je pense aussi que le truc qui est important, c'est aussi de se rendre compte que, genre, c'est pas forcément des trucs qui sont incompatibles. Genre, tu peux pas faire attention à ce que tu manges et être obligé de compter tes calories, de choisir chaque aliment en fonction des macronutriments, de tout ça, tu vois. Tu peux aussi, genre, en fait, te faire plaisir en mangeant sainement, quoi. Et je pense que c'est un peu le truc que tout le monde n'a pas forcément intégré, parce que tout le monde pense automatiquement, si je veux me faire plaisir, c'est junk food, c'est les trucs dégueux, c'est aller au Domax, c'est machin. Alors qu'en vrai, non, t'es pas obligé. Et en fait, c'est aussi l'intérêt, genre, de faire des espèces d'expériences alimentaires et de tester des régimes alimentaires, mais qui en fait deviennent des lifestyles, où tu vas apprendre à cuisiner des trucs différents. Et aussi, d'où l'intérêt, genre, d'apprendre à cuisiner. Genre le plus tôt possible, parce que ça va te servir toute ta life, quoi.
En vrai, c'est tellement cool d'apprendre à te connaître et à traquer tes habitudes et ton énergie loin des dogmes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais genre, exemple typique, moi, je mange pas de glucides le midi et je mange full glucides le soir. Ce qui est totalement à l'encontre de la doxa, de certains discours qui ont été prônés pendant des années et des années. C'est en gros, ouais, mange pas de glucides le soir, tu vas stocker. Bon, c'est faux. Genre, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est faux. Et moi, ça me fait plaisir, en fait, de manger full glucides le soir. Et je me sens plus léger et plus énergique quand je mange pas de glucides le midi. Donc, c'est grave cool, en fait, de réussir à intentionnaliser toutes ces habitudes, tu vois. Et de dire quand est-ce que je me sens mieux, en fait. Bah, si c'est en mangeant pas de glucides le midi, fais-le.
Et ça, pour y arriver, t'es obligé de tester.
Ouais.
Et puis surtout, je pense, te reconnecter à tes sensations, tu vois, et à ce que tu ressens vraiment.
Tu le fais beaucoup, ça ?
C'est-à-dire
te concentrer vraiment sur ce que tu ressens,
ouais,
au-delà de ce qu'on va te dire de faire, en fait.
Par exemple, il y a un moment où j'ai testé le jeûne intermittent, tu vois. J'ai fait le matin et le soir, j'ai fait les deux, mais là, je vais prendre l'exemple du matin. Il y a des matinées, je me levais et j'avais super faim, tu vois. Mais étant donné que j'avais choisi de faire un jeûne intermittent, j'étais en mode, bon bah let's go, je vais le tenir, je vais le continuer, j'ai faim, c'est pas grave, ça va passer, et puis voilà. En fait, maintenant, je fais plus du tout ça. Il y a des matins, je me lève, j'ai faim, je mange. Il y a des matins, je me lève, j'ai pas faim, bah, je jeûne, tu vois.
Ouais. Okay.
Et je pense que c'est juste tellement plus simple comme ça.
Ouais, de ouf.
Et c'est pareil pour... imaginons, tu fais une diète où tu comptes tes calories. Bah, y a des jours où tu as envie d'en manger 2000. Il y a d'autres où tu as envie de manger 3000 parce que, je sais pas, tu as fait plus d'exercices, etc.
C'est du bon sens, en fait.
Ouais, en fait, c'est juste retrouver un peu de bon sens.
T'as même
pas
besoin de l'expliquer, en vrai. C'est juste genre, c'est comme ça que tu le ressens.
C'est ça. Et ton, en fait, le corps, il est tellement intelligent que des fois, on a pas besoin d'essayer d'intentionnaliser tout.
C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, à l'époque, je mangeais mais comme un porc le matin. Genre, mes diètes, hein, mais genre vraiment, ouais. Tu vois les petits déj un peu diète cliché, genre flocons d'avoine, les tranches de pain de mie complet, beurre de... Je mangeais vraiment comme un porc. Et j'adorais, tu vois, le petit déj et tout. Et en fait, il y a juste un moment dans ma vie où il s'est trouvé que je me suis mis à faire plus de poids de corps. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec ces petits déj, j'étais KO à la salle quand je faisais du poids de corps, tu vois. Genre, je me sentais lourd et tout. Et je me suis dit, bah... Vas-y, bah, c'est le bon moment pour tester le fameux jeûne intermittent. Et je l'ai implémenté dans ma vie. Et genre, bah, là, j'ai pas arrêté. Je continue à être dans ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Tu vois, genre, je mange pas le matin. Parce que je me sens mieux à la salle. Mais si un jour, par exemple, je repars sur un cycle force à la salle, où là, j'ai besoin de, je sais pas, beaucoup de calories, de me sentir énergique et tout, bah, peut-être que je reprendrai les petits-déj le matin. Ouais. Alors qu'à l'époque, quand on parlait de jeûne intermittent, je me disais, mais c'est vraiment de la folie. Pour moi, c'est impossible de pas manger le matin. Je vais mourir de faim avant midi. Alors qu'en vrai, non, en fait. Il suffit juste de le faire. Au début, t'as faim.
Ouais,
au début,
clairement.
T'as trop faim. Mais en vrai, ça va.
C'est là où c'est un peu difficile, tu vois, de trouver le juste équilibre entre je me force, c'est pour la bonne cause, tu vois, comme en l'occurrence le jeûne intermittent, où au début, si t'as pris des déjeuners, des petits déj toute ta vie, tu te lèves et tu te dis, je teste le jeûne intermittent, ah bah j'ai faim, bah vas-y, je m'écoute, finalement je mange, tu vois. Non. Genre, des fois, tu peux te forcer un petit peu pour le truc et pour l'essayer vraiment.
C'est pour ça que c'est cool aussi les défis, par exemple, sur YouTube. Enfin, le format défi.
Ouais.
En gros, genre, bah, pendant 30 jours, je me force. Que ce soit nul, que ce soit bien, je le fais. Et on tirera des leçons dans 30 jours, tu vois.
Ouais.
Je pense que je te rejoins sur ça. Genre, au début, ouais, bah, tu le fais un peu de manière aveugle. Et après, tu vois si tu l'implémentes dans ta vie. Parce que c'est sûr qu'en vrai, toi, tu te permets de dire ça parce que t'as un peu masteré le truc. Genre, en gros, ouais, des fois, je mange, des fois, je mange pas. Enfin, c'est plus un problème dans ta vie. Mais des gens, par exemple, qui veulent voir si ça marche, c'est bien, entre guillemets, au début
de se forcer
un
peu.
Tu vois, rigide sur ça, je trouve.
Ouais. Tout est, encore une fois, tu vois, une question un peu d'équilibre ou à quel moment t'es dans un forcing un peu trop vénère ou pas, tu vois.
Ouais, et de te faire ton propre avis, quoi.
Ouais, c'est ça.
De tester par toi-même. Mais c'est marrant ce que vous dites sur les petits-déj, parce que pour le coup, enfin, moi, c'est un peu la connexion des deux. C'est-à-dire que petit, je prenais tout le temps des petits-déj, mais en mode normal, quoi. On prend le petit-déj le matin.
Ouais, ouais.
Et en fait, au bout d'un moment, genre, juste, je me suis rendu compte que j'aimais pas manger le matin. Et du coup, je suis passé en jeûne intermittent, mais sans même me dire, ah, je vais me mettre au jeûne intermittent. J'ai totalement arrêté de manger le matin. Et ensuite, j'ai vu les bouquins sortir, j'ai appris ce que c'était et tout. Mais je l'ai fait genre naturellement, quoi. Donc je pense que c'est aussi un truc qui peut, tu vois, naturellement, t'as pas faim le matin,
c'est
quoi.
C'est ouf le nombre de gens qui ont pas faim le matin.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, après, il y en a autant que de gens qui ont faim le matin, je pense. C'est juste qu'il y a plein de gens différents, en fait, tout simplement.
Ouais.
Et encore une fois, d'où l'intérêt de pas imposer de gros dogmes. Ouais. En gros, genre le matin, le meilleur repas de la journée, le truc le plus important. C'est bullshit, en vrai.
Pour être totalement transparent, genre sur une année, parce que là je parle au quotidien, genre je mange pas le matin et tout, probablement 95% du temps, j'ai pas faim le matin et genre j'ai pas envie de manger parce que je sens que ça va me mettre mal. Mais t'as genre, je dis 5%, je dis n'importe quoi, mais t'as parfois des matins, souvent c'est en vacances, ouais, genre quand t'es vraiment à ton rythme et tout, où bah ouais, en fait je suis chaud pour petit-déj, tu vois, prendre un petit-déj et tout. Mais du coup je me mets pas en mode, ah bah non, je fais un jeûne intermittent tout le temps, donc surtout... C'est vraiment en mode, bah, j'ai pas faim le matin, je mange jamais, et c'est la vaste majorité de mon temps. Et les quelques fois où j'ai faim, bah ouais, let's go, en fait, profitons-en, quoi. Parce que c'est sympa les trucs que tu manges au petit-déj aussi parfois.
Surtout en vacances.
Ouais.
Quand t'as des belles viennoiseries sur
c'est
la
ça.
Table, ouais.
Exactement. Du coup, quand tu petit-déjeunes pas, tu te venges un peu sur le brunch parfois.
C'est vrai.
Mais c'est plus rare, quoi. Genre, je fais moins souvent des brunchs que je pourrais faire des petits-déj, quoi.
Moi, quand même, en vrai, je pense que j'en fais sur une base assez régulière
des brunchs.
Ouais. Ouais. Bah, en fait, en gros. Justement, ce que tu dis, c'est un peu pareil, genre je mange pas le matin de la semaine juste parce que j'ai pas envie, en fait. Et très souvent, le week-end, au moins une fois par week-end, je vais me retrouver soit avec des potes, soit avec ma copine, à devoir petit déjeuner tard, et on va se faire un brunch, un
ouais.
Bête de brunch, tu vois. Donc c'est cool.
quand tu dis je fais des brunchs et tout, parce qu'au final, brunch, c'est tellement vaste, mais ouais. T'es en mode brunch salé, brunch sucré, les
c'est
deux.
C'est quoi pour vous un brunch déjà? Ouais,
enfin, tu peux faire diète comme tu peux carrément te lâcher et te faire trop plaisir.
Non, je fais les deux, moi. Les deux. Après, en fait, c'est quoi que vous appelez diète et c'est quoi que vous appelez manger salé?
Bah, pour un brunch, pour moi, c'est genre, est-ce que tu pars en mode viennoiserie, beurre, confiture, pain, céréales sucrées, ouais, etc. Moi, ou est-ce que t'es en mode des œufs, des fruits, tu vois?
Je me pose pas la question, en fait. Genre, je mange ce que j'ai envie de manger sur le moment, tu vois.
Ouais, ok.
Je crois que je parlais un peu de ça dans une de mes dernières vidéos sur pourquoi j'ai arrêté la musculation. Enfin, je l'effleure, hein, mais c'est en gros la partie nutrition. En gros, je considère deux choses. Premièrement, c'est pas mon métier ni ma vie de compter mes calories. Deuxièmement, c'est peut-être un problème de riche, mais genre, j'ai pas besoin d'être ultra strict 7 jours sur 7 pour avoir un beau physique. Merci d'aller un bête de physique. Pour avoir un beau physique et me sentir bien dans ma peau, tu vois. C'est pas genre même me péter le bide à 10h du matin un dimanche qui va me tuer, genre, tu vois. Donc, la plupart du temps, j'aime bien les pancakes.
Non mais en vrai je te demande ça parce que
les viennoiseries j'aime beaucoup.
Je te demande ça juste pour éviter le côté un peu hypocrite de ouais je prends des brunchs et tout. En fait tu manges trop de diète. Je sais que tu le fais pas tu vois.
Je fais pas des porridge à la cannelle pendant mes brunchs.
Ouais c'est ça.
Si tu veux savoir.
C'est un peu le faux mythe de ouais je me fais des cheat meals. En fait non. Ouais. Clairement non. Tu vois.
Mais après avec le temps j'aime même plus trop genre manger des trucs un peu.
En vrai quand tu te déshabitues du sucre et des trucs trop gras il y a les trucs. Tu peux plus boire.
En fait,
tu vois,
déjà, genre, les trucs industriels, j'aime pas ça, en fait. Et en vrai, historiquement, j'ai jamais trop mangé de trucs industriels. Genre, je suis reconnaissant envers mes parents, mais ils ont toujours été très stricts sur ça. Genre, ouais, on mange pas avec du coca à table, on n'achète pas de gâteau, on vous emmène pas au McDo le samedi. Fin. Donc, peut-être qu'en gros,
T'as eu une enfance hyper dure.
En vrai,
t'imagines la vision matrixée quand même de la société en mode vrai, ah putain, t'as eu une vie saine quand t'étais petit, mais c'était horrible.
En vrai, c'est un vrai débat. Est-ce qu'on doit être reconnaissant envers nos parents pour ces choses-là? Parce que sur le moment, subjectivement, ça me saoulait. Subjectivement, sur le moment, ça me saoulait. Mais maintenant, je suis archi reconnaissant envers mes parents. Par exemple, ma mère qui cuisine assez bien et pas mal, bah en fait, le samedi, on mangeait ses plats, tu vois, les dimanches, toute la semaine d'ailleurs, mais le samedi, genre, elle faisait un truc encore meilleur. Enfin, est-ce que je dois être reconnaissant ou avoir un peu le seum?
C'est comme un peu le débat de genre quand tes parents t'emmènent, je sais pas, faire des balades au musée, etc. Et que quand t'es petit, t'es en mode l'angoisse et tout. Et en fait, plus tard, bah, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, et parce que Deli, je pense que tu le sais, mais genre, avec Lucas, il y a 3 jours, on a été au musée ensemble et c'était trop cool, tu vois.
Ouais. Mais tu sais que j'ai eu cette même discussion avec mon père il y a quelques semaines. On était à Florence, dans la Galerie des Offices, c'est un des musées les plus connus de Florence.
Dans les Pinacothèques. Ça m'a trauma, moi. La fois où j'étais à Florence, mes parents, justement, genre, je sais pas, je devais avoir 10, 12 ans, nos parents nous ont emmenés, genre, dans toutes les Pinacothèques et tout, tu vois, genre, l'espèce de maison musée et tout, mais c'était l'angoisse quoi.
En gros, j'avais cette discussion avec mon père, on allait aux offices et moi j'adorais ça, tu vois. Et en fait, on a une anecdote récurrente qui revient souvent entre nous, c'est que une fois on était allé à Florence et mon père, ma mère et mon frère étaient allés dans les offices et moi j'avais voulu rester dehors avec mon cousin en gros et pour pas y aller genre. Et parce que quand j'étais petit, ça me faisait juste chier en fait.
Ah ouais.
Ouais, pareil.
Et est-ce qu'on devrait se forcer à aller petit alors que ça nous fait chier? Ou pas?
Moi, je suis convaincu que c'est parce que tu te forces, enfin, tu vois, parce que tes parents t'y ont emmené et t'y ont, entre guillemets, accoutumé et familiarisé, que du coup, t'es capable d'y retourner plus facilement plus tard.
Je pense aussi.
Moi, je suis pas sûr parce qu'avec les livres à l'école, tu vois, il y a le phénomène inverse qui arrive assez souvent. On force les gens à lire des livres et au final, ils en lisent plus tard, tu vois. Enfin, par eux-mêmes, c'est très rare que j'ai un peu l'impression qu'on fait partie de l'exception des gens qui lisent assez régulièrement, tu vois. Parce que moi, mine de rien, à l'école, ça m'a un peu dégoûté.
Moi aussi.
Franchement, je lisais jamais les livres en français. Je les trouvais pas intéressants. Et puis, j'étais à un âge où, je sais pas, j'avais d'autres trucs, quoi. Je trouvais ça tellement décalé avec ma vie, tellement abstrait.
Après, c'est peut-être pas tant que ça l'activité de la lecture qui te plaisait pas, mais les lectures qu'on te donnait aussi.
Oui, bien sûr.
Je connais plein de gens dont les parents leur ont mis des livres entre les mains petits. Peut-être qu'au début, c'était pas forcément très agréable, mais qui sont des très, très gros lecteurs aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en gros, ils ont eu des livres entre les mains. Je pense qu'il y a plein de scénarios différents. Mais je rejoindrai plutôt Tom en disant que je préfère un petit peu forcer mes enfants à faire des activités culturelles et tout, plutôt que l'inverse.
T'as des enfants, Lucas?
Pas encore.
La découverte en direct.
On se rejoint dans 9 mois.
Je pense que tout dépend comment c'est fait, tu vois. Parce que si t'as l'impression déjà de forcer tes enfants, c'est peut-être dommage. Tu peux rendre le processus un peu plus cool et un peu plus fun.
Mes parents, je pense que s'ils faisaient ça, c'est qu'ils n'avaient pas l'impression de me forcer.
Ouais.
S'ils avaient l'impression de me faire souffrir et tout, ils l'auraient juste pas fait, tu vois. Mais je pense qu'ils étaient
fondamentalement... Mais vous plaignez pas ?
Si, un peu. Mais déjà, mon frère, moi, en fait, il y a toujours eu un truc, c'est que mon frère, il a toujours plus accepté, il a toujours fait un peu plus l'adulte et tout. Mmh. Genre, ouais, non, mais moi, j'aime bien... Même à 12-13 ans, même, j'aime bien les musées et tout. Donc, il y avait toujours cette dualité entre mon frère et moi, genre, tu pourrais quand même, non, il n'y a jamais eu ça, mais voilà, du coup, ça faisait encore plus contraste, alors que s'il y avait eu deux frères en mode, on s'en fout, ça aurait été plus facile, entre guillemets, enfin, plus difficile pour eux de nous emmener, moi, je me pliais un peu, et c'est vrai que sur le moment, j'aimais pas trop, mais aujourd'hui, je pense que ça a
c'est
créé quelque chose
en
moi,
il
y a plein de trucs, tu vois.
Par rapport à ce que tu disais, Dali, je trouve aussi que, genre, c'est pas tout à fait pareil que ce soit tes parents qui t'y emmènent, parce qu'ils viennent avec toi, tu vois, alors que ta maîtresse, ou enfin, en vrai, tes profs, c'est en mode, bah tenez, je vous file un bouquin de 400 pages, faut que vous l'ayez lu pour telle date, et vous aurez une fiche de lecture à faire, un contrôle et tout, genre, ça peut être un peu en mode, bah ouais, t'es dégoûté. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, clairement. Mmh. J'ai mis vachement de temps avant de me remettre à lire.
Ouais, clairement. Mais pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Lucas, le fait que ça soit avec tes parents, c'est pas mal de les forcer un petit peu, tu vois. Bah, en fait... Les enfants en général qui lisent quand ils sont petits, qu'est-ce qu'ils lisent ? C'est des BD, c'est des romans de fiction, c'est des trucs dans Harry Potter, c'est, tu vois,
c'est
des trucs dans lesquels ils se retrouvent de malades. Parce qu'au final, eux, ils y perçoivent quand même un intérêt et ils prennent du plaisir dans le processus, mine de rien, tu vois. Si tu forces un processus au départ et tu prends même pas de plaisir dedans, comme moi par exemple avec les musées quand j'étais petit, c'était vraiment dur, quoi, et je me plaignais un petit peu. Mais c'était cool parce que ma mère, elle m'emmenait, et en général, on restait pas trop longtemps parce qu'elle partait en mode compromis. Bon, on y passe une heure, comme ça, voilà, moi, je peux découvrir et tout. Et les enfants, c'est pas trop long pour eux, tu vois.
Oh, ouais, c'est pas mal.
Ouais, ouais, non, c'est pas mal, mais surtout, du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que je me demande aussi, moi, dans quelle mesure est-ce que... Le fait que mes parents aussi, ils m'emmenaient parfois dans des musées, tu vois, qui sont assez cool pour des enfants, quoi.
Ok, ouais.
Genre des musées d'histoire naturelle où tu vois des dinosaures, tu vois, des trucs comme ça. Et même, genre, j'ai surtout grandi à Paris, tu vois, il y a le Palais de la Découverte, où, genre, c'est plein d'expériences scientifiques que tu peux faire toi-même, enfant. Okay.
C'était des musées trop ouf, ça.
Quand tu sors du truc, t'as des jeux d'enfants, genre des jardins, des espèces de tyroliennes, des trampolines, des trucs comme ça. Du coup, même si t'as pas trop kiffé le truc, bah t'en gardes un bon souvenir.
Ouais.
Et du coup, t'es pas trauma. Alors que les pinacothèques, il y avait clairement pas de truc cool après.
Je suis choqué.
C'était
là.
Que l'angoisse du.
Je suis grave choqué. Tu viens de réveiller des souvenirs que j'avais oubliés.
Le Palais de la Découverte.
Bah ouais, les
la
trucs, les musées un peu cool d'enfants.
Ouais.
C'est vrai que je les avais grave occultés. En fait, j'ai vraiment les souvenirs des quelques musées où je m'ennuyais. Mais c'est vrai, il y avait plein de musées un peu.
Genre musée où tu dois rester silencieux et machin.
Je sais pas si vous savez, mais peut-être toi t'étais un peu âgé à ce moment-là quand il y avait le guide du zizi sexuel qui était sorti. Vous connaissez ça?
Le
petit œuf là.
Ouais.
Et en gros, à la Villette, je crois que c'était à la Villette. Bah, tout le monde, je pense.
Mais tu sais, tous les parents se sont dit, on peut pas parler de nos enfants. Non, trop pas. En vrai, bah, je pense que j'étais en. Mais en vrai, je suis étonné que vous ayez eu l'âge de l'avoir au moment où. Bah, je devais être début collège, je pense.
Et en gros. Ils avaient fait une expo à la Villette, il me semble, sur l'expo du zizi, enfin sur ça en gros.
Ouais.
C'était trop drôle, genre il y avait des énormes spermatozoïdes sur le mur avec la tête de Titeuf et tout, genre c'était grave drôle, c'est.
J'ai l'impression qu'il y a eu une période où genre tout à coup tous les parents se sont dit putain comment on va parler de sexualité à nos enfants
et
pour trouver un moyen.
Zep est arrivé
et là il y a Titeuf qui est sorti et se sont dit ok je lui mets ça sur sa table de chevet et on verra bien. Et deux jours plus tard le livre avait disparu, tu sais, caché sous l'oreiller, je sais pas quoi.
Moi ma page préférée c'est celle où il y avait deux trous là, vous vous rappelez de cette page?
Non, je sais pas. C'est quoi?
C'était la meilleure page. Il y avait deux pages avec un homme dessiné et une femme dessinée.
Ah,
et
ouais.
Les deux avaient un trou, il fallait que tu passes ton doigt et que tu fasses passer la page.
C'est vrai?
Oui.
Ah,
attendez,
non,
c'est vraiment la page de Slim.
Je me souviens pas du tout.
Ah, vous êtes fous. C'était trop drôle.
Je me demande si je pourrais le retrouver.
Moi, j'avais Jeux Société, je crois.
Je sais pas.
Jeux Société, Titeuf.
Ouais. Ah ouais. Et en vrai, je pense on peut faire un parallèle un peu avec nous, comme on est des créateurs. C'est là où on peut potentiellement avoir un rôle à jouer, je pense. Dans rendre fun et rendre cool un concept, une idée, une habitude, tout ce que tu veux, tu vois, aux yeux des autres pour leur donner potentiellement envie de tester, tu vois.
Ouais.
Et c'est là où c'est chambé, par exemple, des expériences sur YouTube où tu testes pendant 30 jours, je sais pas, le jeûne intermittent, la douche froide, des trucs comme ça. bah ça, tu trouves ça fun ouais. en général de regarder ça et potentiellement ça te donne envie.
Ouais.
Alors que si je viens te voir et je te dis tu vas prendre une douche froide parce que ceci, ceci, ta ta ta.
Parce que.
bah là t'as tout de suite moins envie,
ça
tu vois.
Ouais. C'est angoissant.
Et du coup je trouve c'est cool ce rôle de créateur et de transmission un peu.
Ouais, carrément. Et même parfois un peu de vulgarisateur, quoi.
Ouais, exactement. Enfin,
moi, ce qui me peine avec mes créations, et je pense peut-être vous aussi, parce que, bah, Tom, je sais, parce qu'on a déjà parlé en off, mais c'est que des fois, tu cherches cette remise en question chez la personne qui te regarde. Mmh. Et je fais une boucle avec ce dont on parlait, en début de podcast. C'est que des fois, tu présentes un truc et les gens veulent l'appliquer mot pour mot. Ils vont pas se demander, ouais, dans ma vie, comment je pourrais le faire? Et en gros, des fois, ils te demandent des règles, mais ultra strictes, ouais. Genre, ouais, comment je fais ça? Comment je fais ci? Et t'es en mode, bah, je sais pas,
essaye,
en fait.
Toi.
Enfin, moi, je suis juste un des outils, un des milliers d'outils de ce qui t'est proposé.
Ouais.
Enfin, mets tout en concurrence et crée un truc à toi, tu vois. Et des fois, les gens, j'ai l'impression que sur Internet, déjà sur YouTube, alors j'imagine même pas sur TikTok, vu que tu crées sur TikTok.
Ouais.
J'ai l'impression qu'ils se posent pas des questions plus loin que ce qu'ils voient dans la vidéo, tu vois.
C'est marrant, tu vois, ça me fait penser à la séduction. Il y a souvent des gens qui m'envoient des messages en DM en mode « Ouais, faut dire quoi ?» tu vois, ouais. Quand t'abordes. Bah là, c'est exactement la même chose, tu vois. Bah ça dépend.
Alors ouais, que « faut dire quoi ?» je suppose que c'est grave déterminé par, à la base, un travail sur autre chose, en fait, dans ta vie.
Ouais, de malade.
T'arrives, ce que tu dis à la meuf.
Bah oui, oui.
Ou aux mecs, si vous êtes des meufs ou si vous êtes des hommes.
Oui. Mais c'est sûr que quand t'es petit, c'est difficile de parler de sexe, mais même d'amour, en fait,
ouais.
Tu vois.
Ouais.
Ça reste un sujet, mine de rien,
assez
tabou.
Mais je
trouve
que ça dépend pas mal de ta relation aussi avec tes parents.
Ouais,
genre, moi, j'ai des potes qui ont des relations avec leurs parents.
Très ouvertes.
Bah, en fait, limite, ils sont devenus potes, tu vois. Mmh. Mais ouais. Je trouve que c'est aussi un switch. Par exemple, moi, je sais qu'avec mes parents, c'est pas forcément totalement le cas, tu vois. Genre, parfois, ils ont encore des réactions où ils me considèrent comme un enfant, alors que j'ai passé l'âge, tu vois.
Ouais.
Mais un peu réflexe de « t'oublieras pas de faire ça » et tout, t'es là. Non, mais en fait, tu sais que je vis tout seul ma vie très bien depuis des années.
Ouais.
J'ai habité à l'étranger, on n'habite plus ensemble depuis méga longtemps. Genre, je sais qu'il faut que je fasse ça, tu vois. Et donc, ouais, j'ai des potes qui sont traités vraiment comme des adultes par leurs parents. Et du coup, ils n'ont aucun problème, quoi. Genre, des deux côtés, ils se racontent leurs histoires, tu vois.
Je m'imagine tellement pas faire ça avec mes parents. Et c'est pas une question de me prendre pour un adulte ou non. Parce que je pense que mes parents, pour le coup, ils m'ont toujours pas mal pris pour un adulte. Enfin, depuis petit, genre, ils ont toujours détesté les délires. Il y a les enfants d'un côté, il y a les adultes de l'autre. Genre, mon père, il s'embrouillait avec des gens quand il disait, ouais, bah, il y a les... Or, nous, on a fait un super pot-au-feu pour à manger un bel apéro. Et les enfants, on leur a mis une table en plastique là-bas au coin de la table. on leur a fait des coquillets de jambon. Tu vois, mon père, il détestait ça, tu vois, par exemple.
Et ils ont des... comment ça s'appelle les trucs, là, les kiri
Ouais,
avec,
c'est ça. Et mon père, vraiment, il détestait ça, genre, vraiment, ouais. Bon, bref.
Parce que tu penses qu'il l'a vécu plus... Il l'a vécu lui-même et du coup, il s'est dit, je veux pas faire ça.
Genre, juste, faut arrêter de traiter des enfants comme des sous-humains. Ouais. Genre, en gros, je sais pas, en fait, genre, ce truc de... nous, on s'est fait tel plat et on est à telle table et les enfants seront là-bas avec les couverts en plastique à manger des coquillettes de jambon avec du beurre. Enfin, c'est un peu, tu vois, c'est un peu réducteur, quoi.
Ouais. Après, je pense qu'il y a, ça se faisait aussi souvent parce que les enfants... Enfin, j'en connais quelques-uns, tu vois, qui sont en mode « Non, mais moi, je veux pas manger vos trucs bizarres, là,
mais
tu vois. »
Mais pourquoi?
Ouais.
Moi, j'ai jamais eu ce truc-là, par exemple.
Moi non plus, tu vois.
Je veux pas manger vos trucs bizarres parce que je sais très bien que mes parents, ils avaient pas ce truc de « On fait des trucs différents pour les enfants. »
Ouais, ouais. C'est juste,
gros,
ils s'adaptent et...
C'est genre, ouais, s'il y a un truc bizarre pour les enfants, entre guillemets, s'il y a du brocoli, les enfants vont manger du brocoli, en fait,
ouais,
tu vois. Donc, pourquoi j'ai jamais eu ça? Parce qu'ils m'ont jamais genre cédé le truc du « Oh, tu veux pas de brocoli ? Ben, on va te commander un McDo. » Bah non, ouais. En fait.
Tu vois ? T'imagines l'extrême. C'est ouais, clair.
Tu veux pas de brocoli ? Bah tiens, voilà
un
cuillère d'huile de palme. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que je pense pas que ça ait forcément un lien avec le fait de prendre ou pas un enfant pour un adulte, mais plutôt aussi un lien avec la pudeur. Moi, je pourrais jamais raconter à mes parents
histoire
d'amour.
Ouais.
En gros, ouais, ça va pas, parce que si... Jamais, en fait. Jamais. Et ils me jugeraient pas ou je sais pas quoi, mais ça ne se fait pas, tu vois.
Mais du coup, en fait, c'est ça la nuance. Parce que quand je dis genre, mes parents me prennent pas totalement pour un adulte, c'est plus en mode, ils ont pas forcément des discussions avec moi qu'ils pourraient avoir avec leurs potes. Tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est pas en mode, va faire ton lit, prends ta douche, machin, tu vois.
Mmh.
Par exemple, je le vois, genre, ça m'arrive de temps en temps, quand on est en vacances tous ensemble, on va dans un endroit où on va depuis qu'on est tout petit, et du coup, on a des groupes de potes où, en fait, on connaît les parents, les enfants, et du coup, on fait souvent des dîners mixés adultes-enfants. Et ça m'arrive souvent de discuter genre avec des potes de mes parents, donc qui ont deux fois mon âge, et d'avoir des vraies discussions d'adultes. Et parfois, genre, quand il y a un de mes parents qui commence à discuter, je les entends dire des trucs qu'ils me diraient jamais si on était que tous les deux, tu vois. Parce que quand on discute ensemble, ils sont en mode, il faut que je lui donne des conseils, genre, il faut que je lui transmette mon savoir. Ils sont pas en mode d'égal à égal, échange d'opinions, d'idées, d'expériences. Ils sont en mode, il faut que je l'aide, tu vois.
Ok, mais c'est sain d'un côté.
Et du coup, ouais, c'est hyper sain, c'est trop bien, tu vois. Pas infantilisant, okay. Forcément, tu vois. Mais c'est juste que du coup, c'est moins dans l'échange d'idées que dans le « je te recommande de faire ça », genre... Et moi, j'aime bien l'échange d'idées, du coup, parfois, c'est un peu...
C'est cool.
On parle de dev perso comme si c'était un truc naturel, genre tout à coup, tu te réveilles un matin et tu te mets à prendre des douches froides, à faire du jeûne intermittent, etc. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous dire « ok, le prochain truc sur lequel j'aimerais progresser, c'est ça ». Vous le faites vraiment naturellement, genre vous voyez un truc, vous dites « ah, vas-y, je vais le tester ». Ou est-ce que c'est un peu plus réfléchi en mode « bah, en fait... ce truc-là, ça a l'air intéressant, mais je devrais peut-être plutôt faire ça avant. »
En fait, à un moment, pour la petite anecdote, j'ai fait un micro-trottoir avec deux personnes âgées, tu vois. C'était un couple et ils devaient avoir au moins 80-90 ans. Ouais. Et je suis parti en mode « ouais, vous aimeriez donner quoi comme conseil aux jeunes ?» Et elle a répondu « bah, ça serait bien qu'ils soient un peu plus courageux, tu vois.
Ouais. »
Et moi, je lui ai dit « ok, mais comment est-ce qu'on fait pour être un peu plus courageux ?» Et elle m'a dit « bah, c'est le manque, tu vois. »
Okay. Et c'est ce qu'elle entendait par là.
Ouais. C'est le manque, par exemple. Et du coup, c'est en fait, j'en viens à ta question progressivement, ouais. Tu vois. C'est que, par exemple, tu décides d'inculquer une nouvelle habitude dans ton quotidien parce que il y a un manque, en fait, à la base, tu vois. Par exemple, en amour, tu manques d'affection. Bon bah, tu deviens potentiellement plus courageux et tu parles à plus de personnes.
Ouais.
Qui te plaisent potentiellement. Et bah avec le dev perso, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, tu vois.
Donc c'est le fait que genre le manque devienne tellement insupportable, entre guillemets,
ouais,
que du coup tu passes
guillemets
à l'action et
c'est
tu
ça
te mets à être courageux.
Par exemple, récemment j'ai décidé de prendre la nouvelle habitude d'aller seulement deux fois sur mes réseaux sociaux par jour, tu vois, parce que ça vient d'un manque de concentration et de trop de distractions, etc., tu vois.
Ok.
Donc en général, moi, c'est comme ça que je procède au changement dans ma vie. C'est parce qu'il y a, un manque à un niveau, tu vois.
Genre, tu décèles je vais dire un problème, mais c'est plus genre un manque, justement.
Ouais, bah, en fait, on peut dire que c'est un problème aussi.
Tu trouves genre de quelle manière est-ce que tu pourrais le régler?
Ouais, exactement.
En vrai, ça vient aussi beaucoup d'un abus, hein, les bonnes habitudes.
C'est-à-dire?
Quand t'abuses d'un truc...
On
en parlait tout à l'heure,
genre de distraction, etc. Oui, tu peux dire un manque, un abus, un extrême, en fait.
Bah, t'abuses de la bouffe, t'abuses du porno, t'abuses de plein de trucs comme ça, tu te remets en question. Comment vous avez commencé à vous intéresser au dev perso? Parce que moi, si je retrace vraiment le truc, c'est ultra hasardeux, en fait, mais comme plein de trucs dans ma vie. Aujourd'hui, le fait que je sois indépendant, c'est ultra hasardeux. Genre, il y a toujours un terreau fertile, je pense, chez chacun, pour qu'une idée prenne. Genre, moi, ça m'a toujours saoulé de travailler dans un bureau, mais en gros, il se trouve que pendant que je travaillais dans un bureau, j'ai un pote qui est venu, qui m'a parlé de web marketing, qui m'a dit qu'on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. Et à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, je le fais. J'avais l'âge, j'avais un peu de ressources, j'avais du temps. Je me suis dit, je le fais. Ça se peut, s'il ne m'avait pas parlé de ça ce jour-là, bah, je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, je serais dans un job, peut-être pas salarié, mais dans totalement autre chose. Et je vous posais cette question sur les livres de dev perso, parce que moi, pour l'anecdote, en job étudiant, j'ai été un jour recruteur de donateurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on aime bien dire en rigolant, c'est les gens qui vous cassent les couilles dans la rue pour vous demander de donner à des associations. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, bah, je vais essayer de devenir chaud dans ce que je fais. Et en fait, je m'étais intéressé sur les livres pour vendre, en gros. Et j'étais tombé sur Influence et Manipulation. Et je l'ai lu. Et je me suis dit, waouh, c'est cool, les livres qui racontent pas que des histoires. Genre, Harry Potter, c'est bien, mais genre, les livres qui t'apportent du savoir, c'est grave cool aussi, en fait. Et petit à petit, j'achète un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, cinq livres, six livres. Et je me dis que le dev perso pur, ça m'intéresse plus trop. Je vais sur autre chose. Je vais sur de la philo, je vais sur de la psycho. Et tu vois, c'est grave. C'est dur de tracer des chemins tout faits comme ça. Tu vois, c'est grave hasardeux. Donc, vous, est-ce qu'il y a vraiment un moment où vous vous êtes dit, tiens, je veux me développer personnellement, genre vraiment concrètement? Parce que moi, non, en fait, tout simplement. Genre, je me suis jamais dit, je veux me développer personnellement.
En vrai, moi non plus, je me suis jamais dit ça. Et par contre, c'est pas arrivé avec les livres. Moi, c'était plus avec YouTube. Et en fait, c'est aussi arrivé pendant la période du confinement. Et du coup, comme j'avais plus. Parce que juste avant le confinement, je passais ma vie dehors avec mes potes à sortir, à faire des trucs et tout. Et donc là, je ressentais vraiment un manque, tu vois. Et je sais pas comment je suis tombé sur ce genre de vidéo, mais je crois que la première vidéo de dev perso que j'ai vue, c'était genre 6 habitudes pour devenir riche de Mathias, une vidéo que vous avez peut-être vue. Non. ça,
Je connais tous les youtubeurs, mais j'ai jamais vu leurs vidéos.
ça, au début, ça m'a un peu retourné le cerveau. Et moi, au début, j'avais ce truc de, mais en fait, ça serait. Si on pouvait se développer personnellement, enfin, on aurait déjà parlé en fait. Moi, au début, c'était, j'y croyais pas trop en fait à ce
Non, j'ai eu
truc.
le même.
C'est vrai?
Ouais, au début, ouais.
J'y croyais pas trop à ce truc de développement personnel et on disait aussi beaucoup, ouais, lis des livres et tout, ça c'est important. Et du coup, j'ai acheté un premier bouquin. C'était genre Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban.
Ah oh oui, bah oui. Mais lui, c'est un des premiers youtubeurs dev perso, en
Ouais,
fait. Enfin, c'était
clairement.
de l'immobilier, mais genre, il parlait de s'enrichir, de. Ouais,
Parce qu'une des
évidemment.
portes qui peut t'amener au dev perso, il y en a plusieurs, tu vois, mais le côté business, argent et tout,
Ouais.
c'en est une en général qui revient assez souvent. Et du coup, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Et en fait, c'est pareil. Je suis parti sur. C'est exactement comme toi, Lucas. Un, deux, trois livres. Puis après, le dev perso pur, j'en ai eu marre. Du coup, je suis parti sur d'autres sujets. Mais ouais, moi, c'est avec le fait d'être seul et YouTube et ensuite les livres. Mais c'est vrai que je me suis jamais dit, genre. Bon, allez, je vais me développer
Je me mets au
personnellement.
dev
En
perso.
fait, je pense que c'est très inconscient tout au long de
De
ta vie,
ouf,
tu vois.
de ouf.
T'es un compétiteur, bon, bah voilà, si tu fais du dev perso. En fait, tu fais.
C'est pour ça que ce terme, en vrai, je l'utilise plus. Genre là, on est là, on en parle et tout, mais moi, je n'utilise jamais ce terme, dev perso.
Surtout que là, en vrai, on dit dev perso, mais en soi, enfin, moi, c'est mon impression, mais on a déjà un peu parlé dans un podcast avec Lucas. J'ai l'impression que dans le dev perso, t'as un peu deux manières d'appréhender le truc, et qui est aussi une raison marketing et commerciale, c'est-à-dire qu'il faut plaire à tout le monde. C'est le côté, genre, moi je sais que le dev perso, au final, j'ai fini par y arriver et ça a fini par m'intéresser parce que j'ai toujours eu ce côté compétiteur, vouloir devenir le meilleur, progresser et tout, tu
C'est
vois.
ce dont je parlais quand je parlais de terreau fertile, par
Ouais,
exemple.
avant même de savoir ce qu'était le dev
Je me
perso,
reconnais ouais, dans ce que
et
tu
j'avais un
dis.
peu ton truc d'Ali de dire, mais en vrai, si c'était possible d'apprendre dans un bouquin comment faire ceci, machin, ça se saurait et tout le monde le ferait, tu vois. En
Ouais.
mode personne le fait, enfin, je connais personne autour de moi qui lit ce genre de livre, c'est que ça doit pas marcher et c'est une arnaque, tu vois, espèce de business pyramidal, je sais pas quoi, de types qui vendent du rêve et en fait il y a rien derrière quoi. Donc je dis ça sur le dev perso parce que je pense que tu as aussi un peu l'extrême inverse qui est de se dire bah t'as pas besoin de devenir le meilleur, t'as pas, tu vois, dans le dev perso il y a aussi cette notion-là, tu vois, et du coup ça peut plaire à tout le monde, mais là nous quand on en parle c'est plutôt cet aspect-là de progresser. Après je dis pas qu'il y a pas de progression dans ne pas devenir le meilleur et tout. Mais je pense que tu as une partie qui est plus genre pur bien-être et une partie qui est plus accomplissement de soi, qui est pas tout à fait identique et qui fait que du coup tu peux arriver dans le dev perso par des trucs, des chemins très différents et potentiellement pas du tout parler de la même chose.
C'est ça. C'est pour ça que
Toujours.
ce terme, il veut tout et rien dire en fait. Et aujourd'hui, je me ferme plus, par exemple, dans mes lectures, je lis ce que j'ai envie de lire sur le
Ouais.
moment. Mais ça peut, je peux vous, enfin, en privé, hein, je vous montrerai ma bibliothèque Kindle, mais il y a des trucs qui n'ont rien à voir en fait.
Ouais, mais
Et
c'est
je
ça
me
qui est bien,
ferme pas
hein.
du tout, tu vois.
C'est ça
Je
qui est
me ferme pas
important.
du tout à ça, alors qu'en vrai, on pourrait croire, en regardant mes vidéos et tout, que je lis que ça, mais en vrai, hein, je crois que sur la cinquantaine de livres que j'ai sur ma bibliothèque Kindle, il doit y en avoir peut-être quatre purs dev perso. Je me suis fait la remarque à l'enfant rigolant, je dois en avoir quatre purs dev perso. C'est ouf. Parce que voilà quoi, je considère que genre il y a plein d'autres trucs à côté.
Ouais, et puis en fait, mine de rien, tu fais vite le tour. Tu vois,
Ouais,
moi je
en vrai,
trouve du
ouais.
dev perso et la plupart des livres ont tendance à se répéter un peu, mine de rien.
Ouais.
Genre, moi
Ouais,
je.
bah t'as des bouquins où clairement,
C'est
genre, les
ça.
seules idées intéressantes, elles sont dans les deux, trois premiers chapitres, et après, c'est vraiment genre, je répète ce que d'autres gens ont dit et.
Ça serait trop cool de faire le framework ultime de
Bah,
ce qu'il faut
ouais, j'y
savoir et j'y
pense.
pense. Moi
Genre, une espèce
aussi.
de carte mentale où tu vois, de
Ouais.
framework où
J'aimerais trop
genre.
faire une vidéo en
Tu
gros,
regroupes
genre,
tout et tu dis
lis
tel bouquin, il y a ces
ces.
trois
Ouais, c'est
idées-là.
ça.
Tel
Genre,
bouquin, il y a ces trois.
tu lis, je suis sûr qu'on pourrait en tirer peut-être 5, allez,
Ouais.
10 max livres. Tu les lis, tu
C'est
lis plus de
bon.
dev perso.
Ouais.
Genre,
Oui, clairement.
arrête de lire des livres genre habitude, je sais pas quoi. Arrête de lire
Ouais.
des livres énergie. Arrête de. Tu vois, tu lis ces 5-10 livres
Ouais.
et maintenant va sur autre chose. Lis d'autres trucs plus
Je suis
profonds,
assez
plus trucs. Tu vois
d'accord,
ce
ouais.
que je veux dire?
Récemment, j'ai lu The Motivation Myth. Je sais pas si vous l'avez lu.
Bah tu vois, typiquement, désolé, je te coupe. Ce livre, je l'ai lu.
Ouais.
Et quand je l'ai lu, je m'y connaissais déjà trop dans le délire processus versus.
C'est exactement pareil pour moi. Genre, ouais. J'étais vraiment en mode. Bon, bah c'est cool, c'est motivant, tu vois.
Ouais.
Genre, voilà, c'est un peu motivant, mais.
Mais t'as rien appris.
Ouais, j'ai vraiment rien appris. J'étais en mode, bah ça, ouais, je l'ai déjà
en gros,
entendu. Ça,
dans, dans le livre, pour ceux qui savent pas, la thèse principale de l'auteur, c'est une thèse très connue en dev perso, c'est qu'en gros, il faut se concentrer sur le processus plutôt que sur le but. En gros, ouais. Et que la motivation, c'est un mythe, la motivation, c'est un truc passager, une petite flamme qui s'éteint aussi vite qu'elle s'allume. Et c'est intéressant, en vrai, si tu t'es jamais frotté à ce genre d'idée,
ouais,
c'est intéressant.
Ouais, c'est malade.
Mais si t'arrives sur ce livre, alors que tu lis déjà des livres, tu connais déjà ces livres-là depuis bien des années, ça t'apporte pas grand-chose. Mais en vrai, ça peut, encore une fois, ça peut péter la tête d'un mec qui a jamais lu de dev perso.
C'est là où c'est difficile, tu vois, en tant que créateur, des fois. C'est ce que je vous expliquais, notamment avec mes vidéos, où moi j'avais du mal à faire un contenu qui peut potentiellement être grand public, et tout en permettant aux gens un peu comme vous, du coup, et sûrement aux auditeurs qui nous écoutent.
Patientèle, clientèle, auditeurs.
aux auditeurs qui nous écoutent, c'est dur, tu vois, d'avoir des idées un peu qui peuvent.
Pas intéresser, mais qui peuvent servir à tout le monde, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça.
Bien sûr.
Après, en vrai, faut l'accepter, hein. Des fois, tu te prends des commentaires, ouais, mais il a rien inventé, ce gars. Et la plupart du temps, tu te prends des commentaires, genre, merci, genre, tu m'apprends des trucs.
C'est ça.
Mais ça, au début, moi, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur, je sais pas vous. Mais en gros.
Ouais,
non, jamais.
quelle légitimité j'ai à parler de trucs que je connais déjà?
Ouais,
alors qu'en vrai, c'est le concept même d'être un mec qui apprend des trucs.
Mais surtout, je trouve que c'est le truc qui devrait être implicite pour tout le monde sur YouTube, c'est que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, il donne son expérience, son retour d'expérience, tu vois.
Ouais.
Ou alors, il dit clairement, genre, je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans des livres et je vous parle jamais de moi, tu vois, mais...
Mais d'où l'intérêt de lire les bouquins d'Austin Kleon, je sais pas si vous avez lu.
Je kiffe les bouquins d'Austin
Kleon.
D'ailleurs, ce que je kiffe chez Austin Kleon, c'est que c'est rapide et efficace, quoi.
Malade.
Il fait des tout petits bouquins.
Malade. Même avec tes petites illustrations et tout, c'est cool.
Beaucoup.
Bah, en vrai, je pense qu'il fait des illustrations parce que sinon, vraiment, les bouquins, ça tiendrait en 15 pages.
Ouais.
Tu vois, il pourrait pas les vendre plus de 2 euros.
Ou... Ouais, c'est vrai.
C'est vraiment
là,
des...
au moins, t'as un beau bouquin, tu vois.
Mais pour le coup, il a pas la prétention de faire des thèses de ouf.
Non.
Mais c'est des petites bombes de bon sens, ces livres,
ouais.
De 90 pages. Et j'aime beaucoup. Même son style et tout, ça m'inspire pas mal.
Et il y avait une idée intéressante, moi, je trouvais, c'est qu'il disait. En fait, il fallait juste répéter constamment les mêmes choses parce que les gens oublient,
ouais.
Tu vois, mine de rien, ou juste ils n'ont jamais entendu.
Je crois qu'on en a déjà parlé l'autre jour, mais en off, on ne se rend pas compte, en fait, à quel point les gens, genre, c'est pas leur life, en fait, le dev perso.
Ouais.
Donc, genre, oui, ils regardent nos vidéos, mais d'une semaine à l'autre, ils zappent, quoi.
C'est pas, ouais.
Et comme, en fait, en réalité, et c'est dommage pour nous et pour les gens, mais c'est la réalité... Il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui, après avoir vu une vidéo 30 jours douche froide, vont réellement aller se mettre à tester, tu vois. Et du coup, ils vont vraiment regarder la vidéo parce que c'est divertissant, parce qu'ils vont voir un mec crever de froid, et tu vois. Donc, tu as aussi tout cet aspect-là où, quelqu'un peut regarder 10 vidéos douche froide et ne jamais tester lui-même, tu vois. Mais je pense, juste pour un peu généraliser sur ce truc de la création, et ça rejoint un peu un truc que tu disais tout à l'heure, je pense que quand tu crées, faut pas avoir d'attente sur comment ça va être reçu. Genre, toi, tu peux juste créer et après, est-ce que les gens en font? Tu vois, et c'est un peu un truc qu'on se dit souvent,
c'est ce que
Lucas,
je me dis de
c'est
plus
genre,
en plus, ouais.
Les gens aussi, naturellement et de manière biaisée, entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi.
Ouais.
Et parfois, ils sont à des périodes de leur vie où il y a des trucs qui résonnent plus que d'autres et ça, t'y peux rien, tu vois. C'est comme toi, quand tu lis un livre, tu vois, le bouquin dont tu parlais de marketing. Tu le lis 2 ans plus tard, tu trouves que c'est de la merde, mais 2 ans plus tôt, tu trouves ça fou. Bah,
ouais.
Les gens, c'est pareil, en fait. Quand ils arrivent sur ton contenu, tu sais pas qui va arriver, comment ils vont le prendre et tout, quoi.
Ouf.
Donc, je pense, et même sur le truc que tu disais, sur j'aimerais bien pouvoir aider les gens à la fois avancer et les débutants.
Ouais.
Tu peux pas, en fait.
C'est sûr.
T'as pas la main là-dessus. Ou alors, tu fais 2 chaînes et tu dis, bah, ça, c'est les trucs genre méga niche et ça, c'est grand public, mais.
En fait, c'est marrant parce que, imagine, j'écris un livre de dev perso. Où je mets des trucs qui pour vous semblent basiques, tu vois. Mais au final, mon audience, eux, ils n'ont pas forcément l'habitude de ça, ou ça leur paraît pas si évident et déjà entendu. Bah, mine de rien, ça pourrait avoir un impact de fou, en fait. Malgré le fait que le livre soit juste un mélange de 3-4 livres de dev perso un peu classique, tu vois.
Après, ben, je sais pas si on va rentrer dans ça, je sais pas si ça intéresse ou quoi, mais c'est aussi des questions à te poser en tant que créateur. qu'est-ce que tu veux proposer au monde, quelle trace tu veux laisser en fait. Genre en gros, oui, ça pourrait marcher de répéter 10 fois les mêmes choses.
Ouais. Est-ce que tu veux être un répéteur ou est-ce que tu veux être un créateur?
Voilà. Est-ce que tu as envie d'être un vrai créateur qui propose toujours des trucs de fou?
Ouais.
Ou est-ce que tu as envie de répéter toujours les mêmes top 10 sur tes vidéos, tu
vois? Après, c'est dur aussi d'être créateur. Enfin, je pense qu'on a tous tendance à vouloir créer le plus possible, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est qu'il n'y a pas besoin de recréer des trucs, tu vois.
Non, c'est clair, mais... Je vois ce que tu veux dire d'un point de vue un peu Austin Leon, genre en gros on peut pas réinventer totalement la roue, mais à titre personnel, nous je pense que c'est cool de nous réinventer, tu vois.
Ouais ouais ouais, de malade.
Genre en gros on se réinvente nous dans ce qu'on fait. Évidemment quand on se réinvente et quand on évolue, ça a déjà été fait par quelqu'un de plus chaud, mais au moins nous on évolue, tu vois.
Mais je pense d'où l'intérêt aussi de d'en revenir toujours à sa propre expérience, parce que c'est ça qui est unique en fait. Le truc qui te différencie quand tu fais 30 jours douche froide, c'est ta perception des 30 jours douche froide. C'est pas tellement le fait que t'aies pris 30 jours de douche froide, parce que ça, n'importe qui peut le faire et ça n'a rien de, d'original en fait.
Moi je me souviens, il y a un moment, je voulais faire une vidéo.
60 jours douche froide.
Un défi, genre peut-être 30 jours sans porno, un truc comme ça, tu vois.
Ouais.
Mais il y avait une partie de moi qui me disait, mais en fait,
ça déjà.
Il y a une partie de moi qui se disait, mais non, en fait, c'est. Enfin, ça a déjà été fait, tu vois. Donc, c'est pas génial. J'ai pas envie de refaire une vidéo qui a déjà été faite. Sauf que c'était Jocelyn qui me disait ça, un gars qui travaille avec Roman Dodwick. C'est son co-producteur. Enfin, c'est son metteur en scène, pardon.
Roman qui est youtubeur, tiktoker.
Ouais, exactement.
Qui fait des vidéos.
Et il m'avait dit, mais en fait, c'est pas grave parce que, comme tu viens de le dire, bah, c'est ta perception, ouais. Elle est forcément différente des autres et tout. Donc en fait, je pense que c'est cool d'avoir un peu un juste milieu de... des fois, tu crées quelque chose qui a déjà été potentiellement fait et des fois, tu pars sur des idées un peu nouvelles, t'essayes des trucs, tu vois.
En fait, t'as non seulement le fait de partager ton expérience personnelle, mais je trouve que t'as aussi un autre truc qui est trop important et qui, moi, à titre perso, fait qu'en en ce moment, je suis en pause sur ma chaîne parce que je pense pas mal à ça, mais c'est la forme, en fait. Genre, tu parlais de top 10, Lucas, tout à l'heure. Genre, tu peux choisir de faire des tops et de transmettre juste de l'info, ou tu peux essayer de faire un truc qui soit plus dans l'émotion, qui va plus toucher les gens, du coup, partager ton retour, etc. Et tu peux faire des trucs de plus en plus immersifs, de plus en plus ce que tu veux, juste en impactant la forme, quoi. Et finalement, peut-être que tu vas dire la même chose qu'un autre gars, mais toi, la manière dont tu l'as fait, ça va faire que, bah, après avoir vu la vidéo 30 jours douche froide, ils vont le faire, tu vois. Enfin, des gens vont le faire, quoi. Et je pense, au final, après, ça, on en revient à qu'est-ce que tu veux transmettre en tant que créateur, tu vois. Mais moi, un des trucs que j'aimerais faire en tant que créateur, c'est justement motiver des gens à faire des trucs qui, soit, pensaient pas capables de faire.
On en revient un peu au truc dont on parlait plus tôt dans le podcast. C'est le fait de rendre le truc un peu fun, tu vois.
C'est une option sur la forme.
Ouais, en fait... Fun, c'est peut-être pas le meilleur mot choisi, tu vois, mais tu le rends
sympa à regarder,
plus intéressant, ouais. Etc. Et du coup, ce qui fait que le message se transmet différemment et avec potentiellement plus d'impact.
Bah ouais, moi je pense, genre, c'est con, hein, mais tu montres deux vidéos où, genre, mot à mot, c'est la même chose,
ouais.
Mais pas tourné de la même manière, ça n'aura jamais le même impact, quoi.
C'est sûr.
Y a des formats beaucoup plus inspirants que d'autres. Il faut pas négliger. Et d'ailleurs, t'as pas forcément besoin de brandir un panneau « Je fais du dev perso » pour forcer les gens à se développer, genre.
Bah, c'est un truc que je te dis souvent, hein, genre, moi, je trouve qu'il y a plus de dev perso dans les vidéos de divertissement que dans pas mal de vidéos de...
Il y a des livres de fiction qui genre, te poussent à... Je sais pas, qui te font tirer des leçons. Ça dépend de ta perception. Si t'as envie de tirer une leçon d'un livre de fiction, tu peux le faire. Si t'as envie de tirer une leçon d'une histoire, par exemple, qui a vécu... ta grand-mère, on te raconte une histoire de famille où en gros elle a vécu un truc et que t'as envie d'en tirer une leçon, tu tires une leçon, tu vois.
Je trouve que ça marche beaucoup avec les animés, par exemple.
Ouais, de ouf. Comment j'ai pu oublier cet exemple? Moi, même les premiers trucs qui m'ont appris le dev perso, c'est les animés, en fait. Les animés, c'est un truc de malade pour ça. Naruto, c'est genre le truc, mais il y a tellement de valeur par épisode représenté dans Naruto. C'est un truc de ouf.
Ouais. Et ça rend, tu vois, parce que c'est amené sous une forme.
Ouais, et en plus, ça te transcende et ça te marque beaucoup plus, je trouve. D'avoir un mec à qui tu
presque t'identifies.
Tu t'identifies.
Ouais.
Et il fait ce que t'as envie d'être. Et en gros, ça te force à te dépasser, en gros. Plus qu'un face cam dans une chambre, par exemple. Vous êtes pas d'accord, les gars?
Ah, moi, ça me transcende, hein, les face cam dans une chambre, pour ne plus faire ça.
Ouais, ouais.
Bon, merci beaucoup, les gars. C'était très cool comme podcast. Très bonne invitée pour une première fois. En
avec
vrai,
plaisir,
merci
les
beaucoup,
gars.
Dali.
Merci, Dali. Hein. Sympa. Très sympa.
Et du coup, on va faire un truc un peu différent d'habitude. D'habitude, c'est Lucas et moi qui faisons une reco. Et cette fois-ci, on s'est dit que ce serait plus sympa que ce soit juste notre invité
ouais.
qui fasse une reco. Donc, Dali, est-ce que tu as un truc à recommander à nos écouteurs?
À vos écouteurs ou à vos auditeurs?
À nos auditeurs, à nos auditeurs.
Bah en fait, ce qui est marrant, c'est que là, vous êtes chez moi. Et du coup, vous avez tous les deux un objet en commun que je trouve assez cool.
Qui est... AirPods Pro?
Non. Non, c'est votre petit trépied là. C'est quoi la marque déjà, Manfrotto?
C'est un Manfrotto Pixie.
Manfrotto Pixie.
C'est un petit trépied de table en gros.
C'est ça, où, sur lequel tu peux mettre ta caméra. Et en fait, ça m'a beaucoup donné envie d'acheter le même.
Ouais.
Parce que... bah, comme
parce
vous,
que.
Parce que. Voilà, ça s'arrête là. Non, parce qu'en fait, bah, vous m'avez montré qu'en fait...
On t'a influencé un
ouais,
peu.
Ouais, vous m'avez beaucoup influencé. Et surtout, vous me l'avez assez bien vendu. En mode, bah en fait, avec ça, t'as tout le temps envie de tourner et c'est beaucoup plus simple, tu vois.
Ouais, ça réduit pas mal l'envie de... Enfin, la flemme, en gros.
Ouais, ça réduit pas mal la friction au démarrage. Et du coup, moi, je trouve ça cool comme genre d'objet. Parce que c'est vrai qu'en tant que créateur, des fois, bah, t'as pas envie de tourner un truc parce que, voilà, il faut sortir la lumière, il faut sortir la caméra, etc. Alors que le fait d'avoir un petit trépied comme ça, assez pratique, qui te permet de filmer, bim, en 5 secondes, eh bien, ça te pousse à passer à l'action un peu plus régulièrement, tu vois. Donc, en fait, ma reco, elle est assez large, mine de rien, mais c'est plus sur un objet... En l'occurrence, le trépied dans mon cas, mais c'est pas, ça peut partir sur autre chose, qui en fait te permet de passer à l'action un peu plus facilement et qui rend le processus tout simplement un peu plus agréable en fait.
Faciliter la mise en action.
Ouais, c'est exactement ça.
Voire même un peu excitant, genre ah trop cool, je vais pouvoir tester mon nouveau trépied.
Ouais, c'est ça. Bon, ça durera pas longtemps.
Non, mais du coup, au moins ça te met dans une espèce de routine de « Ah, j'ai l'habitude de l'utiliser, c'est plus une friction, et du coup, bah, je peux me filmer tout le temps avec, quoi. »
Ouais, c'est ouais. ça.
Très cool. Achète ouais. ce trépied, tu ne regretteras pas d'aller.
Je vais l'acheter.
En tout cas, merci pour ta présence, c'était cool.
Avec grand plaisir.
Ouais, gars. C'était très sympa.
De votre côté, chers écouteurs, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir...
J'ai peur que ça reste.
Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps, c'était très cool de notre côté, j'espère que vous avez aussi aimé. Si vous avez aimé autant que nous, n'hésitez pas à nous remercier. Tu sais ce qu'il faut faire, Dali, pour remercier les gens qui font des podcasts?
On t'a forcé à le faire avant le podcast. Je te donne un indice.
Ouais, je crois savoir. Il faut mettre 5 étoiles.
5 étoiles.
5 étoiles fort.
Sur vos plateformes
parce
de podcasts préférées. Parce que.
J'allais continuer quand même. Il y avait une suite.
Ah.
Et parce que c'est assez dur de monter en organique avec des podcasts. Et c'est un des seuls moyens de pousser un peu la visibilité.
Merci.
Donc n'hésitez pas.
N'hésitez vraiment pas et encore merci comme d'hab, c'est cool les gars.
Salut. Et puis à la semaine prochaine.
Ciao ciao.
À bientôt. Bravo.